Seigneur, soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Mais Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième et puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, j'ai fait ma première expérience avec la mort à l'âge de 10-11 ans. C'était en 1968. Nous avions perdu une petite fille de la famille qui était voisine de face de la nôtre. Et elle, la fille en fait, c'était l'amie de ma plus jeune sœur de 2 ans. Et elle est décédée. En fait, je me rappelle qu'elle portait le nom de Victorine, mais tout le monde l'appelait Vicky. Il arrive des fois que je pense à elle. Je me dis, elle est décédée en 1968. Qu'est-ce qu'elle est devenue après toutes ces années-là? Je sais que nous avons l'expérience des personnes qui sont décédées même avant 1968. Alors, parfois, des fois, ça m'a hanté. Je me dis, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Quel est son état? Dans quel sort est-elle? Certainement que ces questions-là sont les vôtres aussi. Nous avons perdu des membres de nos familles, proches, des amis, des collègues de travail. Ça a été récent, ça a été il y a plusieurs années. Et d'ailleurs aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous pensons d'une manière spéciale aux personnes pour qui nous avons célébré les funérailles. Mais ces personnes-là, où sont-elles? Je me rappelle de la chanson, une des belles chansons de Ginette Renaud qui dit « Ceux qui sont partis ». Ils sont partis sans adresse. Ils n'ont pas laissé d'adresse, ceux qui sont partis. C'est pas savoir où est-ce qu'ils sont, on ne peut pas les rejoindre. C'est un peu la même préoccupation, le même contexte. Où sont les personnes qui sont décédées? C'est sûr que dans la parole d'aujourd'hui, nous allons trouver des réponses. Je me rappelle le père Certillange, un père dominicain français, qui est déjà décédé, et lui, dans une de ses réflexions, il dit quelque chose de bien. Il dit, regardez, avec la mort, la famille n'est pas détruite, mais elle est transformée. parce qu'elle prend une dimension de l'invisible. Il y a les membres de notre famille qui ne sont plus avec nous, mais qui sont dans le monde invisible. Ce que notre famille a une dimension invisible, c'est que le ciel n'est plus un endroit qui n'est pas familier à nous. Le ciel devient de plus en plus familier parce qu'au ciel, il y a des gens qui portent notre nom de famille, qui sont là et qui vivent avec Dieu. Donc, le ciel, ce n'est pas seulement le monde des anges, le monde des saints inconnus, c'est aussi notre monde. Parce que les personnes que nous avons connues, ils vivent et ils sont là. Donc, ça me donne de l'espoir, de l'espérance d'y aller aussi. Ce n'est pas un lieu qui va nous être étrange. Les nôtres, ils sont déjà. Quand on réfléchit à ce propos-là et que on veut retourner aux Écritures, moi je verrai la première lecture, pas nécessairement telle qu'elle s'est exprimée aujourd'hui, mais regardez le contexte surtout de la deuxième lecture. En fait, c'est l'épître de Paul aux Thessaloniciens. La ville de Thessalonique se trouve dans la Grèce d'aujourd'hui. Paul avait évangélisé cette ville-là autour de l'an 50-51. Et son message central était concentré sur le retour imminent de notre Seigneur. Et il disait aux Thessaloniciens, Thessaloniciennes, il disait, le Seigneur va revenir bientôt. Et quand il reviendra, nous tous, nous allons aller à sa rencontre au ciel. Et nous resterons toujours avec le Christ. Ça, c'est le sens de la résurrection. Mais après sa prédication, il est parti à Corinthe. Il est parti vivre à Corinthe. Les années commencent à passer. Et les années passaient, et ça passait. Le Christ n'était jamais revenu. Et dans la communauté de Thessalonique, des personnes ont commencé à connaître la mort. Il y a eu des décès. Maintenant, les gens de Thessalonique commencent à se poser des questions. Oui, mais Paul nous avait dit que le retour serait bientôt et on va aller à la rencontre du Seigneur. Mais maintenant, les nôtres qui sont morts, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et quand le Seigneur va venir, quel sera leur sort à eux? Alors, la question qu'ils se sont posées sont les nôtres. Et Paul de leur dire, mes amis, le Seigneur qui va venir au jour J pour son second retour, ce Seigneur-là est celui que le Père a ressuscité d'entre les morts. Il vit éternellement. Alors, toute personne qui meurt dans le Seigneur, c'est-à-dire ouverte à la foi dans le Seigneur, toute personne qui accueille le Seigneur Jésus, cette personne-là, quand elle meurt, de la même manière que Dieu a ressuscité Jésus, le Père ressuscitera cette personne-là qui est morte dans la foi du Seigneur. Et Paul, de poursuivre, alors, quand le Seigneur reviendra, les personnes qui sont mortes avant nous, ce seront les premières à aller rejoindre le Seigneur dans les cieux pour rester avec lui pour toujours. Et nous autres là, qui vivons encore, dit Paul, alors ça sera notre tour de nous élever et d'aller aussi à la rencontre du Seigneur pour rester pour toujours avec lui. C'est ça le sens de la résurrection. Alors pour dire, et j'aime la conclusion de Paul dans ses réflexions-là, il dit, je vous dis ces choses-là pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance des personnes qui sont décédées. Je vous dis ces choses-là pour que vous vous supportiez les uns les autres, pour que vous vous portiez, pour que vous vous encouragiez les uns les autres avec cette foi en la vie. Voilà le message qui nous est adressé aujourd'hui à propos de la mort. Mais pour creuser davantage, il faudrait se tourner vers l'Évangile. L'Évangile, notre Seigneur, de but en blanc, il parle de la résurrection. Il dit c'est quoi la résurrection? Peut-être en scrutant le texte, il faudrait retenir deux idées principales. La première, le Seigneur veut dire la vie dans l'au-delà n'est pas la même chose que la vie dans ce monde-ci. Les catégories de ce monde-ci ne sont pas les mêmes que les catégories de ce monde-là. Cette vie d'ici, ce n'est pas une prolongation de la vie de l'au-delà. Donc il y a une coupure radicale entre la vie d'ici et la vie de l'au-delà. La manière qu'on procède ici, nous sommes des personnes sujettes aux lois du temps, et aux lois de l'espace. Mais dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est une autre vie, c'est une autre dimension de la vie, c'est la vie de Dieu. Voyez-vous? Alors, si tu aimes la crème glacée ici, ou l'autre plat que tu aimes, tu ne vas pas continuer à manger la crème glacée et le plat que tu aimes dans l'au-delà. Voyez-vous? Donc, comme dit Paul, l'au-delà, ce n'est pas matière d'estomac, matière de ventre. L'au-delà, le royaume de Dieu, c'est affaire de justice, d'amour, de paix, de joie. Alors, quand on va à l'encontre de Dieu, c'est pour vivre dans l'amour, la paix, la joie. C'est ça. Donc, la vie de ressuscité, la vie éternelle, la vie d'enfant de Dieu. Mais maintenant, la deuxième dimension de la réponse de Jésus est formidable. Le Seigneur nous dit, regardez, quand Moïse a été posé, quand il s'est placé devant le buisson ardent, Dieu lui a parlé du buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode. Alors il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Seigneur Jésus de dire, si Dieu a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob sont en vie. Comment est-ce que Dieu peut se déclarer le Dieu des personnes qui sont mortes, le Dieu des morts? Comment est-ce que Dieu peut être fier de se proclamer un Dieu des morts? Donc, dit notre Seigneur, si Dieu se donne la joie, si Dieu se réclame d'être celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que ces personnes-là sont en vie. Alors vous savez quoi? Notre Dieu est fier de se réclamer le Dieu de chacun, chacune d'entre nous. Parce que nous avons été créés avec le sceau de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu, en nous créant, il nous a créés dans l'amour, pour l'amour. Donc Dieu tient à nous. C'est comme tes parents qui sont fiers. Voici ma fille, c'est mon fils. La fierté d'être le Père. Alors Dieu est fier d'être notre Dieu. Alors il dit, je suis votre Dieu. Je suis le Dieu de chacun, chacune d'entre vous. Si Dieu se réclame le nôtre, il nous veut vivants, vivantes. Parce qu'il est le Dieu vivant, il ne peut pas se réclamer un Dieu des morts. Des personnes qui vont disparaître. Donc, le Seigneur doit nous dire, notre Dieu, c'est le Dieu des vivants. Parce que lui-même, c'est le vivant. D'ailleurs, quand on revient au Christ qui est le centre de notre célébration, qui est le centre de notre foi, qui est le cœur de la résurrection, le Christ lui-même, c'est le vivant. Parce que le Seigneur l'a tiré du royaume des morts pour le poser, le mettre dans le royaume de la vie. Alors le Christ, c'est le vivant. Quand on regarde durant toute sa vie, rappelez-vous la scène de la résurrection de Lazare. Au chapitre 11 de Saint Jean, le Seigneur dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Tout homme, toute femme, toute personne qui croit en moi vivra éternellement même s'il meurt. La vie, quand on va vers le Seigneur, on est le vivant. Nous sommes des vivants, des vivantes, parce que nous avons été incorporés au Christ depuis le jour de notre baptême. Nous avons reçu une vie nouvelle en nous. Et les vies, cette vie s'exprime aujourd'hui. Donc nous sommes des vivants. Regardez, toujours le Christ sur la croix, vous vous rappelez l'histoire du bon larron. Hein? Le Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Le Seigneur ne dit pas, attends un peu, puis on verra. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pour dire, quand on va au Seigneur, c'est tout de suite là qu'on est vivant. Quand le Seigneur nous accueille, c'est pour la vie. Il ne nous accueille pas pour la destruction. Il ne nous accueille pas pour l'éphémérité, pour des choses éphémères. Le Seigneur nous accueille pour la vie éternelle. Nous sommes des vivants, des vivantes. Je me souviendrai toujours de cette jeune fille-là qui est décédée alors que j'étais étudiant au petit séminaire. Une femme de 20 ans, une jeune étudiante qui est mort dans un hôpital universitaire de la ville de Lubumbashi. Et cette jeune femme-là, elle est morte de leucémie. Mais en fait, elle avait marqué son milieu universitaire à cause de sa foi, à cause de son amour, à cause de son sens de service. Alors, quand elle est décédée, comme il se doit, on a enlevé ces choses, la famille est venue replacer les choses dans sa chambre d'hôpital, et on a découvert ces livres-là, son journal, où elle écrivait son expérience de vie, et puis son expérience à l'hôpital. Alors on a trouvé cette belle page, qui a été publiée d'ailleurs, où c'était écrit elle-même, elle dit, voilà, le jour où je partirai, dans toute la ville de Lubumbashi, on va raconter Sebiera, c'est son nom. Sebiera est morte. Sebiera est morte. Mais non, point d'exclamation, elle met sur le texte, je ne suis pas morte, je suis vivante, je suis chez mon Dieu. Quand j'y pense aujourd'hui, quelle foi elle avait, cette fille-là. En fait, elle avait compris que quand on est avec Dieu, quand on s'attache au Seigneur, quand on a été baptisé et qu'on reste ouvert au Seigneur, qu'on accueille sa vie, on reste vivant, vivante. Parce que notre Dieu à nous, c'est le Dieu des vivants. D'ailleurs, saint Augustin a aussi cette belle réflexion. Il dit, parce que nous sommes incorporés au Christ, nous sommes les membres du corps du Christ, c'est que le Christ sur la croix, il a détruit la mort. C'est que la mort est morte. Dans ce sens que le jour où nous allons fermer les yeux, eh bien, comme on vient de chanter dans les psaumes, quand on fermera les yeux, eh bien, le jour où on va les ouvrir, eh bien, Dieu va remplir, va nous rassasier de sa présence, va nous rassasier de sa vie. Et cela, c'est instantanément, c'est le Dieu de notre vie. Nous ne mourrons pas pour attendre, nous mourrons pour entrer en communion avec Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été créés pour la vie. Mais maintenant, cette vie que nous allons recevoir, ce n'est pas une affaire d'attendre, c'est une vie qui commence déjà maintenant dans la vie que dans notre existence d'aujourd'hui. Alors, si la vie de demain, c'est la vie de communion avec Dieu, c'est la vie d'amour, c'est la vie de compassion, c'est la joie, c'est la paix, eh bien, cette vie commence déjà dans notre existence aujourd'hui. Quand tu reçois le corps et le sang du Christ, tu ne reçois pas du pain, c'est-à-dire du pain comme ce que tu achètes au centre d'achat. Ce que tu reçois, ce n'est pas la viande que tu manges. Ce que tu reçois, ça ne va pas dans ton estomac. Le corps du Christ, ça va dans l'intérieur, ça vient bâtir, ça vient donner la force de l'énergie à notre intérieur, à la vie intérieure, à l'âme. Donc, l'Eucharistie, c'est le pain d'en haut, c'est le pain du ciel. C'est déjà le pain de l'au-delà, c'est déjà la nourriture de l'au-delà. Parce que ça vient nourrir notre âme. Donc, cette nourriture de l'au-delà vient déjà nous élever de ce monde-ci pour nous propulser dans le monde de l'au-delà. C'est que les actes que tu fais aujourd'hui, les actes de bien, les actes d'amour, les actes de compassion sont transfigurés par la puissance du ressuscité. De sorte que les gestes que tu poses aujourd'hui sont comme des graines d'amour qui vont éclore dans le jardin éternel de Dieu. La vie éternelle, mes amis, commence déjà maintenant. Nous avons un pied dans la vie éternelle. Alors en célébrant aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de venir ravivre en nous cette soif de la vie éternelle et de nous rappeler que l'expérience que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est l'expérience qui rappelle au monde entier que Dieu nous a créés pour la vie. Amen.